Donc Christophe Pichon vient d'Angers. Il est enseignant à l'Université catholique de l'Ouest. C'est un bibliste. Il enseigne l'Écriture sainte et aussi la théologie pratique, je crois. Voilà. Donc il a plusieurs casquettes. Et il va développer devant vous le thème suivant, « Libérer les plus pauvres de la honte ». Une insistance à écho lucanien. Christophe, à toi la parole.
Et on va jusqu'à, parce qu'on a un peu de retard, jusqu'à quelle heure tu penses?
Ça va, tu vas jusqu'à midi 2.
Midi 2. Midi 3. Très bien. Voilà. En lisant le livre d'entretien « Les pauvres sont l'Église », j'ai été frappé par ce que Joseph Brzezinski dit de sa propre expérience de la honte et de celle des plus pauvres. Il ne s'agit pas d'un vague sentiment, mais d'une expérience profondément humaine. Cette honte si lourde à porter et dont il s'agit d'être libéré m'apparaît comme une insistance particulière de la lutte du Père Joseph pour éradiquer la misère. Il évoque ainsi son combat, je projette les phrases que je cite, « Que pouvions-nous, les familles et moi-même, si des hommes et des femmes voulant ce que nous voulions, détruire la misère et sa honte ?» ne se portait pas à nos côtés. Je lisais donc le livre d'entretien et en même temps je travaillais avec des étudiants à Angers l'évangile de Luc, qui est traversé par cette même question de l'honneur et de la honte. En effet, la première femme dans l'évangile de Luc, la première qui parle, elle parle de honte. Et en suivant le parcours d'Élisabeth, puisque c'est d'elle dont il s'agit, je me suis rendu compte qu'il était question d'une libération. Ce que j'avais lu dans « Les pauvres sont l'Église » m'est apparu très évangélique. De ce côté, l'Évangile m'est apparu très contemporain. Chaque texte est lié à un contexte historique particulier. Mais ils peuvent entrer en résonance. Je voudrais donc vous partager ce matin quelques découvertes dans l'ordre où je les ai faites, quelques aspects de la honte dans « Les pauvres sont l'Église », le parcours d'Élisabeth dans l'évangile de Luc, il manquera le croisement des deux pour cette intervention orale. L'expérience de la honte du Père Joseph, la maison, la rue et j'aurais dû rajouter le camp. La première mention du mot honte concerne celle de son père. Elle est intérieure et liée à un sentiment d'impuissance. Il portait en lui, page 8, de ne pouvoir donner sécurité et bonheur aux siens. Elle est liée aussi à un sentiment d'échec, la honte d'avoir manqué sa vie. Sa honte, son père la garde pour lui. Et ce qu'il manifeste à la maison, nous dit le père Joseph, c'est des cris, des coups, des injures. Ce n'est qu'une fois adulte que Joseph comprend que ces manifestations sont l'extériorisation de la honte de son père. Joseph mentionne aussi sa propre honte d'enfant, en relation cette fois-ci non pas avec la maison, mais avec l'extérieur et le quartier. Il évoque le circuit du couvent qu'il fallait faire tous les jours, chemin de la honte de mon enfance, qui a effacé dans ma mémoire ce qu'il peut y avoir eu de consolant. Et un peu plus loin, chemin de la honte au pluriel. Il y en avait d'ailleurs d'autres, toujours liés aux besoins harcelants de nourriture. Ainsi, dès la petite enfance, écrit-il, se liait manque d'argent, honte et violence. La honte est liée d'un côté à une situation subie, caractérisée par la faim et l'humiliation, et d'un autre côté à la résistance contre la servitude, c'est son mot, par la violence. Humiliation, violence. Il retrouvera cette honte chez d'autres dans le camp de Noisy. Il raconte. Il y avait aussi la soupe populaire. Elle n'avait aucun sens au cœur de tant de misère. Des hommes et des femmes allant avec leurs gamelles faisaient le tour du camp par l'extérieur pour ne pas passer devant ma baraque. Tellement ils avaient honte. Tellement ils savaient que j'avais honte pour eux. C'est pour mon chien, disait-il, s'il me rencontrait quand même. La maison et la rue, la famille et le corps social, le regard sur soi
et le regard que l'on porte sur soi, la honte subie et la honte dont malgré soi on se rend acteur, voilà, ces quelques éléments repérables dès le début du livre, ça m'a vraiment frappé, donnent à comprendre que la honte est au croisement du psychique et du social. Le croisement du psychique et du social. La honte atteint l'identité de l'humain. Joseph écrit « Il est vrai que les très pauvres sont des êtres cassés, minés, usés. La misère les a empêchés de développer leur intelligence, elle les a parfois réduits à un tel état de dépendance qu'ils ont honte d'être des hommes. Ils le sont pourtant à l'état pur, si j'ose dire », ajoute-t-il. La honte évoquée ici est radicale puisqu'elle touche à l'identité même de l'humain. Le plus pauvre ne se considère plus humain ou est regardé comme un sous-humain. Comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, en prenant sa formule de Joseph, c'est la mutilation de votre qualité même d'être humain. La honte, ça n'a rien d'anecdotique. Il en va donc de la dignité humaine. La honte expérimentée par Joseph, et avant lui son père, et plus largement par les très pauvres, est décrite comme une souffrance qui a pour origine le mépris, le rejet, l'humiliation, qui les font douter de leur honorabilité, de leur dignité, de leur grandeur. Car l'antonyme de la honte, c'est l'honneur, la fierté, l'honorabilité. Vivre l'histoire, écrit-il, non plus comme une honte, mais comme un honneur. Être fier de l'expérience vécue, cela devint le temps fort de la pédagogie du mouvement. Ce travail pour retrouver de l'honneur est possible dans l'altérité. Les pauvres ne le peuvent pas, ni seulement eux, ni isolément. Permettre aux familles de parler de leur histoire, de leurs parents et grands-parents, les aider à se savoir honorés. C'est donc le regard d'autres qu'eux-mêmes qui va leur permettre de se redécouvrir plein d'honneur. Mais c'est de l'honorabilité collective, ajoute-t-il, dont ils ont le plus besoin et qui compte le plus pour eux, être quelqu'un ensemble. Là, il s'agit non pas du regard d'autrui, mais de se regarder nous-mêmes collectivement, comme plein d'honneur. Je passe à Saint-Luc. Les études sur le Nouveau Testament, depuis quelques décennies, se sont intéressées à la question de l'honneur et de la honte dans la culture méditerranéenne. Et ça renouvelle notre manière de lire les évangiles. Il y a plein de scènes qui viennent en tête. La salutation sur les places publiques, le fait de choisir les premières places, les invitations réciproques à manger entre pairs, les discussions pour savoir qui est le plus grand, de l'honneur et de la honte à tour de page. Pour avoir un reflet de ce qui est valorisé dans la culture méditerranéenne et donc à l'époque de Luc, il faut se souvenir, me semble-t-il, de la manière dont on fait l'éloge de quelqu'un. C'est d'autant plus intéressant qu'on s'est rendu compte que Luc, quand il raconte l'histoire d'Élisabeth, de Marie, de Joseph, de Zacharie, il a ces catégories de l'éloge en tête. Or, qu'est-ce que c'est que faire l'éloge de quelqu'un? C'est mettre en valeur sa noble origine, son éducation, ses amis, sa réputation, ses fonctions officielles, ses richesses, ses mérites physiques, sa santé, sa force, sa beauté, voilà, ses vertus et ses bonnes actions. Or, les études néo-testamentaires ont montré que le christianisme reconfigure ces catégories de l'honneur et de la honte. L'honneur et la gloire appartiennent à Dieu, qui confère honneur à ses enfants. La destinée de Jésus montre que son humiliation, sa souffrance, sa mort n'ont pas eu le dernier mot. Il est exalté par la droite de Dieu. Or, l'œuvre lucanienne illustre cette reconfiguration, cette subversion. tout particulièrement sous la forme d'un renversement des valeurs mondaines. Ce qui est honoré, c'est pas ce qu'on croyait. Je vais donc vous proposer, pour terminer, de suivre le parcours d'Élisabeth que je distingue en 4 étapes. Mais ça, c'est moi. Avec cette question, comment une femme honteuse en vient-elle à être libérée de sa honte ? Je commence par Élisabeth au départ de l'histoire. Ce qu'on dit d'Élisabeth. Au regard des catégories de l'éloge, Élisabeth, elle est remarquable. Quant à ses origines, elle est de la tribu de Lévi, mariée à quelqu'un de la tribu de Lévi, et elle habite en Juda. Elle est pleinement dans le peuple. Luc nous dit même qu'ils sont tous les deux irréprochables quant à l'observance de la loi et avancés en âge. Au regard des catégories de l'éloge, c'est des gens qui sont quand même pas mal. Mais Élisabeth, seule, est stérile. Zacharie va parler de lui et de sa femme. Et il va dire, quand il va parler d'eux, « Nous sommes avancés en âge ». Il ne parle pas de stérilité. L'ange, lui, parle d'Élisabeth comme l'épouse de Zacharie et d'une future mère. Gabriel comme d'une parente de Marie. Mais ce n'est pas tout cela, ni même son nom, que colporte la rumeur. Elle est appelée la stérile. Elle n'est plus, pour le on-dit, que la stérile. Ce on-dit est saisissant parce qu'il contraste avec l'honneur acquis par son ascendance. Il réduit l'identité d'Élisabeth à sa stérilité. Quand d'autres personnages y voient une épouse, une femme âgée, une parente, une future mère. Comment Élisabeth vit-elle cette condition ? Le narrateur précise avant que Zacharie revient muet du sanctuaire pour sa maison et non pas la leur. Il était au temple avant. Comme il revient muet, le dialogue dans la maison de Zacharie sera impossible. Il ne peut pas lui annoncer ce qu'il a entendu de l'ange à propos de lui, d'elle et de la naissance de l'enfant à naître. Il n'y a pas de communication mentionnée dans la maison, même par geste, comme ça sera vrai plus tard. Après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se cachait 5 mois, disant « Ainsi a fait pour moi le Seigneur dans les jours où il a posé son regard sur moi pour emporter ma honte devant les hommes. » Première remarque, elle ne parle de sa honte qu'une fois celle-ci enlevée par sa gestation. C'était son secret. Elle était honteuse, mais ne l'avait pas avoué. Mais à qui parle-t-elle ? Pour l'instant, elle n'a pas d'interlocuteur. Deuxième remarque, quelque chose a changé. Elle exprime ce que Dieu a fait au parfait actif, c'est-à-dire que pour elle, Dieu continue d'emporter sa disgrâce au moment où elle parle. Troisième remarque, Élisabeth utilise les mots d'une autre. Elle reprend les paroles de Rachel, la femme de Jacob, qui avait dit « Dieu a emporté ma honte ». Mais à l'inverse de Rachel, Élisabeth se cache encore. Mais pourquoi se cache-t-elle ? Le regard porté sur Élisabeth a enlevé sa honte, mais pour les autres, à ce stade du récit, elle est toujours la stérile. Elle ne l'est pas pour Dieu, ni pour elle. Quand et comment accepter de se montrer hors de sa maison, transformée de l'intérieur ? C'est la prochaine étape pour Élisabeth. Il s'agit qu'Élisabeth, qui n'est plus honorée malgré sa haute naissance, soit libérée de sa honte devant les hommes, du fait d'être stérile, et retrouve auprès de tous, hors de sa maison, un honneur, et qu'elle soit de nouveau en relation transformée. Celle qui va transformer la situation, c'est Marie. Le 6e mois, Marie entre chez Élisabeth, encore stérile aux yeux des hommes. Elle s'y rend sans y être contrainte. Pour ce faire, Marie doit monter dans la montagne de Juda. La parente pauvre, sans ascendance mentionnée, rejoint Élisabeth d'une haute lignée sacerdotale là-haut. Et Marie la salue. La salutation a lieu dans une maison, en privé. et imite celle de l'ange venu vers Marie. Elle n'a pas l'inconvénient des salutations honorifiques que l'on fait sur les places publiques, dénoncées plus tard par Jésus dans l'Évangile. Pourtant, cette salutation, en privé, honore celle qui est saluée. Un dialogue s'instaure. Élisabeth dit à Marie la manière dont elle vit sa salutation, avant d'entendre ce que Marie lui révèle de l'humiliation. Et les deux femmes parlent de concert. En secret, Élisabeth avait dit pour elle-même « Le Seigneur a posé son regard sur moi pour emporter ma honte. » Marie chante « Dieu a porté son regard sur la bassesse de sa servante. » Elle parle à hauteur d'expérience. Elle chante, Marie, la grandeur de Dieu, qui met les puissants en bas des trônes et élève les humiliés. Le renversement n'est pas l'inversion. Les pauvres sont comblés de biens, d'accord, mais Dieu ne les met pas sur le trône dont il fait tomber les puissants. Sous le regard de Dieu et via son action, ce qui est valorisé, honoré, n'est pas ce que la culture de l'honneur valorise. Quatrième étape, libération totale d'Élisabeth. Élisabeth sort de chez elle et retrouve les membres de sa famille au temple. Elle va s'exprimer désormais ouvertement. Depuis le début de l'Évangile, le cercle des destinataires s'élargit. Elle parle d'abord en privé, en secret à elle-même, puis devant Marie dans la maison. Et désormais devant tous, pour la première fois, qui plus est, au temple. Elle a retrouvé sa place dans la parenté. Elle est reconnue comme ayant bénéficié de la bonté du Seigneur. Son honneur lui vient de là, non de ses exploits. Elle a bénéficié de la bonté du Seigneur. Elle enfreint les usages. Elle qui pourtant avec Zacharie est attentive à la loi et aux coutumes. Elle prend en effet la parole alors que tous se taisent. Elle dévoile un nom nouveau dans la parenté, Jean. Est-ce pour parler de sa propre expérience, Jean, Dieu a fait grâce? C'est en tout cas le nom qui médiatise auprès des hommes la grandeur de ce qui lui est advenu. Quelque chose de tout à fait surprenant. Luc chapitre 1, verset 57. Quant à Élisabeth, le temps s'accomplit pour elle, et elle devait enfanter, et elle engendra un fils. On aura envie de dire à Luc, tu te serais pas trompé de verbe. Car une femme enfante, mais un homme engendre. Elle devait enfanter, et elle engendra un fils. Or, ça vaut pour d'autres détails de la péricope. Élisabeth supplée Zacharie en quelque sorte pour engendrer, prophétise avant lui, donne le nom de Jean prescrit par l'ange, éprouve la joie annoncée avant Zacharie, en outre elle parle avant Zacharie, toujours mais. Elle est pourtant une femme qui n'a pas la préséance. Bouleversement de l'identité d'Élisabeth. Conclusion provisoire. Ainsi, par étapes, Élisabeth est libérée de la honte qui l'enferme chez elle. Elle ne tient plus son honneur de ses origines, mais de l'attention que Dieu lui porte. Tout au long de son cheminement, elle évoque ce que Dieu a fait pour elle. Enlever sa honte, reçu la mère du Seigneur chez elle, nommé son fils Dieu a fait grâce. Les salutations sur les places publiques servent la recherche des honneurs. Mais quand l'ange et Marie saluent en privé, respectivement une servante et une femme honteuse du regard porté par les hommes, la salutation divine s'effectue dans des maisons à l'écart. La honte est donc question de regard sur soi et de regard d'autrui sur soi. Et elle enferme chez soi la honte. La salutation lors de la visitation par une autre femme servante permet la parole adressée. Libérée de sa honte, Élisabeth reprend pleinement place dans sa famille et le peuple. Elle prend la parole en public, dans le lieu où habituellement Dieu est prié. Elle y revient différente, honorée par Dieu, reconnue par les siens. On dirait l'itinéraire de Joseph Brzezinski. Marquée par la honte de son enfance, entrée un jour dans le camp de Noisy. Et quand je lisais « Les pauvres sont l'Église », je repérais ces trois étapes grâce à Élisabeth. La honte, l'enfermement, un regard neuf porté sur soi, une salutation chez soi qui rompt l'isolement, une rencontre qui permet la sortie de chez soi pour des retrouvailles en famille, et je terminerai là-dessus. Élisabeth exprime le passage du dedans au dehors, de la maison au temple. Cette progression serait maintenant à lire en écho avec le passage du camp de Noisy aux marches du Vatican, de l'Élysée et de l'ONU, trois fois mentionné dans « Les pauvres sont l'Église ». Je vous remercie.